Oh, que la fidélité de notre Dieu est grande et merveilleuse. Amen. Alléluia. Nous voulons continuer, avec le secours de notre Dieu, à lire et méditer des passages primordiaux pour la prière dans les psaumes. Nous sommes à notre quatrième occasion, nous faisons cela. Et notre premier texte ce soir se trouve dans le psaume 28. Psaume 28, versets 6 et 7, où nous lisons la chose suivante. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. Nous relisons. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. Vous voyez que notre texte est une proclamation de confiance, c'est un témoignage positif rendu à la fidélité et à l'amour de Dieu envers son enfant. Et vous voyez comme les proclamations d'exaucement, d'action positive de Dieu sont mêlées à la louange et à reconnaissance. À la reconnaissance. Vous avez vu, ça commence par le fait de bénir l'Éternel, au début du verset 6, ça finit par le fait qu'il le loue, en particulier par des chants, donc à la fin du verset 7, des chants d'action de grâce et de louange. Nous ne devrions jamais oublier la reconnaissance, jamais oublier la bénédiction de Dieu et la louange. Et toutes nos supplications devraient effectivement en être précédées, accompagnées, et tout au long, et se conclure comme cela. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, chapitre 4, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières et des supplications, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Hein » Il dit bien « avec des actions de grâce ». Et combien ces actions de grâce, je dirais, ces louanges, vont aussi rendre nos prières à la fois plus légères et plus puissantes. Hein, donc, plus rempli de joie et de consolation, et en même temps de paix et d'assurance. Hein. Le fait de rendre grâce, le fait de louer Dieu. Et ce n'est pas pour rien que les exhortations à être baptisés du Saint-Esprit, à être remplis du Saint-Esprit, sont accompagnées d'invitations au chant et donc aux actions de grâce. Parce que le Saint-Esprit aime à venir demeurer dans un cœur qui est rempli de gratitude et d'action de grâce. Hein. On revient toujours à ce petit chant, enfin c'est un cantique, mais avec ce refrain, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. » Et quand on pratique ce cantique, alors notre gratitude va augmenter et notre foi va grandir, et notre assurance de la bonté de Dieu va s'affermir de plus en plus, et le Saint-Esprit sera de plus en plus à l'aise, si j'ose dire, hein, donc, et pourra remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu, celui ou celle qui va développer ce comportement. Amen. Et puis, donc, en même temps, dans ce passage auquel nous revenons, voilà quatre proclamations de foi. Au cœur de notre passage, nous avons quatre proclamations de foi. La première, c'est il exauce la voix de mes supplications. Hein, dans la deuxième partie du verset 6, donc, c'est une proclamation générale. Et quand elle est générale, ça veut dire qu'elle ne souffre pas d'exception. Dieu exauce toujours ceux qui sont dans cette attitude de foi et de reconnaissance dont nous venons de parler, hein, qui sont dans une attitude de supplication en même temps. Hein, ce n'est pas juste une prière comme ça qui est dite du bout des lèvres, de manière plus ou moins mécanique. Non, là c'est quelque chose, c'est un désir intense, ça vient d'un besoin urgent, pressant, c'est pour ça qu'on supplie, hein, c'est comme ça qu'on supplie. Donc, et puis, suppliant de manière suivie, pas seulement une fois. Hein, il y en a qui disent « Ah ben moi, quand j'ai prié une fois, Dieu a entendu, c'est bon. » Alors, on n'est pas plus grand que David, hein, qui dit « L'Éternel a entendu la voix de, pas de ma supplication, de mes supplications. Hein. » On le voit bien là donc, hein, « Suppliant autant de fois que possible, assiégeant le trône de la grâce aussi longtemps que nécessaire, et élevant aussi leur voix pour cela. » C'est la voix de mes supplications. Dieu nous a donné une voix. Une voix pour que nous la fassions monter devant lui, donc que nous le fassions s'élever au milieu des frères et sœurs. Quand on est dans une réunion de prière et qu'on a une voix, c'est aussi pour ouvrir notre bouche et utiliser cette voix au milieu des frères et sœurs pour qu'ils puissent participer à notre prière, qu'ils puissent l'approuver, qu'ils puissent la soutenir. Et puis aussi, Dieu nous a fait donner une voix pour que nous puissions l'élever éventuellement quand nous sommes tout seuls, quand c'est possible. Hein. Et vous allez voir que quand vous êtes tout seul et que vous priez, à voix haute, c'est aussi quelque chose qui va renforcer notre foi et donc notre conviction pour être exaucée. Amen. Et si j'avance encore un peu, la deuxième de ces proclamations de foi, c'est là, au début du verset 7, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et voilà encore une proclamation de foi, parce qu'on peut dire, et c'est juste aussi, l'Éternel me fortifie. C'est déjà magnifique quand on peut dire cela. Hein. On peut dire encore, ma force vient de Dieu. Et c'est glorieux aussi quand on peut dire cela. Ou bien, ma source de force, c'est le Seigneur. Et c'est vrai que c'est vraiment la meilleure des sources. Mais voilà, quand on dit ça, c'est un peu comme si on se plaçait, voilà, l'Éternel est ici, et puis moi je suis là, voyez-vous. Parce que quand quelqu'un dit l'Éternel est ma force, ah, vous ressentez tout de suite. Hein, donc, ça veut dire que l'Éternel est en moi, est en lui, hein, dans cette personne, et que nous sommes en lui, ce qui est évidemment le meilleur. De la même façon, quand il est dit, juste après la troisième proclamation, l'Éternel est ma force, il dit, et mon bouclier, et mon bouclier. Alors, ça nous renvoie, bien sûr, tout de suite à ce que dit l'apôtre Paul, qui nous dit que nous devons nous couvrir avec le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais quand le psalmiste dit que l'Éternel est son bouclier, eh bien, ça veut dire qu'il est question de protection de toutes parts. Parce qu'un bouclier, ça nous protège d'un côté. Hein, voilà, il faut qu'on se mette derrière. Parce que quand l'Éternel est notre bouclier, ça veut dire qu'on est protégé par derrière, par devant, par-dessus, par-dessous, par les côtés. On est protégé partout. Hein, c'est un extraordinaire avantage lorsque l'Éternel est notre bouclier. Amen. Et puis la quatrième proclamation de foi, il dit encore, en lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Alléluia. Hein, suite de ce verset 7. Là, elle décrit cette réalité, je dirais, ce lien de cause à effet. Quand on se confie en lui, automatiquement, on est secouru. Chaque fois qu'on se confie en lui, on est secouru. Quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, quelle que soit la nécessité, toujours, quand on se confie en lui, on est secouru. Amen. Alors ce passage, eh bien, on pouvait le comparer quelque part, je dirais, à un écrin avec quatre diamants dedans. Hein, la partie du dessous de l'écrin, ben, c'est je dirais, ou le couvercle peut-être plutôt, ben, c'est l'introduction, hein, de louange. Après, vous avez les quatre proclamations. Et puis après, vous avez l'autre partie de l'écrin. Et donc, ça, c'est la conclusion, c'est la louange de remerciement de conclusion, que nous puissions nous saisir de ce magnifique écrin avec son précieux contenu pour chacun d'entre nous. Amen. Je poursuis avec, dans le psaume 30 maintenant. Psaume 30, et au verset 2 et 3, notre deuxième texte pour aujourd'hui. Et là, il est écrit, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alléluia. Je relis. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Vous savez, lorsqu'on regarde dans la suite de ce psaume, on voit que David avait été effectivement dans un grand danger qui devait en premier temps. Dans un premier temps, toucher sa santé, hein, donc cette maladie grave, avec un risque bien réel de mourir, c'est ce qui ressort des versets 4 et 10. Et ça nous rend encore, encore plus angoissant par le fait que des ennemis étaient aux aguets pour profiter de la situation, ce qu'on voit dans la deuxième partie de ce verset 2, donc, et réaliser dès que possible leur mauvais dessein. Et David proclame que quand il a crié à Dieu, Dieu l'a guéri. Mais alors vous me direz, mais comment a-t-il crié à Dieu pour que Dieu le guérisse? Bien sûr, il a crié à Dieu pour être guéri, mais en même temps, David était très conscient qu'il y avait un combat spirituel dans cette affaire. Il y avait d'autres enjeux. L'œuvre de Dieu était en jeu, des ennemis voulaient détruire cette œuvre. Hein, donc, et c'est aussi donc, parce qu'il était conscient de cela, c'est aussi parce qu'il avait cela vraiment à cœur, qu'il a crié à Dieu pour la guérison. C'est aussi pour cela, parce qu'il a prié de cette façon, que Dieu l'a guéri. Et vous savez, frères et sœurs, si nous prions simplement pour être soulagés ou pour être guéris ou pour avoir une réponse à nos besoins, etc., le Seigneur peut évidemment agir. Hein, c'est vrai. Mais il nous faut toujours nous souvenir que le miracle de guérison ou la guérison divine, ce n'est pas une fin en soi-même. Si nous sommes engagés pour Dieu, notre prière, en particulier pour la guérison, aura une autre force, une autre conviction. Ça aura une grande force et une grande conviction. Si nous sommes engagés dans le combat spirituel, si nous avons l'amour des âmes et que nous travaillons à gagner des âmes, si nous sommes engagés dans l'évangélisation et que nous avons à cœur d'aider des personnes à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, si nous luttons dans la foi, dans la prière et dans l'amour pour défendre l'œuvre de Dieu contre les attaques de l'adversaire qui sont bien réelles, et si plus encore que notre problème de santé, nous avons à cœur, comme David, que l'ennemi ne puisse pas en prendre avantage dans la situation pour infliger des dommages à la cause de Dieu. Bref, si nous faisons passer la recherche du royaume de Dieu et de sa justice réellement en premier dans notre vie, avant nos propres intérêts, avant même, dirais-je, notre santé chancelante, éventuellement, alors c'est vrai, oui, le Seigneur agira. Le Seigneur agira parce qu'il soutiendra son œuvre, parce qu'il soutient sa cause, et alors il guérira parce que nous aurons bien compris qu'avant toute chose, ce n'est pas nous qui sommes en jeu, ce n'est pas moi et ma santé qui suis le plus important. Il faut quand même qu'on se dise cela, mais c'est que l'adversaire soit tenu en respect, qu'il ne puisse pas accomplir ses mauvais projets, qu'il soit obligé de reculer, et que, en premier et avant tout, ce soit la gloire de Dieu qui soit ainsi manifestée et mise en évidence. Amen. Et puis, lorsque vous regardez la vie de David, on en revient là, puisque c'est quand même une partie de sa situation qu'il expose. Donc, vous voyez que David, lorsqu'il est devenu roi, déjà pour devenir roi, ça n'a pas été un chemin facile pour lui, mais ensuite quand il y a été, le chemin n'est pas forcément plus devenu plus facile. Pour que son royaume se porte bien quelque part, pour que la royauté se passe bien, nous voyons que David a fait bien des efforts, bien des sacrifices, et il a beaucoup crié à Dieu. Quand on lit avec soin un petit peu cette période de sa vie, donc là où il est sur le trône, on voit qu'il lui a fallu continuellement veiller, parce qu'il a fallu garder l'équilibre entre les différents groupes d'intérêts, vous savez. Quand c'est comme ça, quand il y a du pouvoir en jeu, enfin, veiller à ce que personne ne soit lésé, veiller à tenir en respect ceux qui voulaient s'imposer par la force, par la violence, veiller aux frontières, anticiper les attaques d'ennemis, désamorcer les sources potentielles de conflits qu'il faut y avoir, entretenir les relations avec ceux qui travaillaient sous son autorité, les relations de confiance, il faut travailler à ça. Puis essayer de gagner ceux qui lui étaient hostiles autant que possible. Que d'efforts que David a fait tout au long pour ces choses-là. Et si certains s'imaginent que David a coulé des jours heureux et paisibles de l'harmonie et la tranquillité quand il est devenu roi, eh bien je crois qu'ils s'illusionnent beaucoup parce qu'il a fallu que David combatte, il a fallu qu'il lutte tout au long pour que ce royaume soit reconnu, pour que ce royaume puisse se perpétuer, qu'il puisse prospérer par le soutien puissant et miraculeux du Seigneur. Et bien des fois, effectivement, c'est le miracle de Dieu évident qui a sauvé la situation comme ici. Mais Dieu a agi à chaque fois et a exaucé souvent prodigieusement parce que, effectivement, David avait à cœur que ce royaume puisse être aussi à la gloire de Dieu. Et il en sera ainsi pour nous si nous sommes dans cette même disposition de cœur et d'esprit. Amen. Et puis, mon troisième et dernier passage pour ce soir, c'est à la fin de ce psaume. Donc, le même psaume, mais cette fois-ci au verset 11 à 13. « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Alléluia. Je relis. « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Donc, nous l'avons dit, nous sommes toujours dans ce psaume 30, et nous arrivons maintenant à sa conclusion, et c'est une conclusion, on pourrait dire, quelque part, en apothéose. Hein, pourquoi ? Ben, ça commence par, dans le verset 11, cette supplication répétée, « Éternel, écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi !» Et ça nous rappelle la grandeur de sa détresse, la profondeur de son besoin, l'intensité de son cri, la ferveur de sa supplication. Et déjà dans le passage précédent que nous avons médité, on a vu la façon dont le Seigneur la façon admirable dont le Seigneur l'a sauté, l'a exaucé. Voilà, on va y arriver. Mais ici, nous voyons bien que ça va plus loin. Nous voyons bien que ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il nous a dit dans le verset 12 que non seulement ses lamentations ont été calmées, non seulement ces lamentations ont été apaisées par la réponse favorable que le Seigneur a donnée, mais qu'elles ont été transformées en l'exact opposé des lamentations, c'est-à-dire en allégresse. Hein ? Ça a été changé en allégresse. Je dirais que quelque part, c'est un avant-goût du ciel, parce que vous savez, l'Écriture nous dit que dans le ciel, l'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Hein ? Et puis en plus, il est dit que le Seigneur a délié son sac. Le Seigneur a délié son sac. C'est-à-dire que ce fardeau pesant qu'il avait sur lui, vous savez, ce souci qu'il avait là, qu'il chargeait, cette culpabilité probablement aussi, qu'il traînait, ça rendait son existence triste et vraiment compliquée, difficile. Et non seulement il a fait l'expérience de la promesse qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous », mais il nous a dit que Dieu a délié ce sac. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Dieu a enlevé son sac qui était sur lui, parce qu'il était lié aussi avec ce sac. Et puis il a ouvert le sac, il a dit « on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ton sac, tiens, on va voir faire le tour un peu de ce qu'il y a dans ton sac. Hein. » Et puis, qu'est-ce qu'il a fait avec ? Après, il a pris connaissance de son contenu, et point par point, il a donné une solution à chaque besoin. Parce que quand Dieu délie un sac, ben c'est comme ça que le Seigneur fait, alléluia, dans les grandes comme dans les petites choses, avec la plus grande fidélité, amen. Et non seulement cela, mais il dit qu'il l'a ceint de joie, ça veut dire qu'il lui a mis une ceinture, hein, c'est du verbe ceindre, il l'a ceint de joie, une ceinture de joie. Quelle joie merveilleuse que la joie du Seigneur. Quelle différence de nature, quelle différence de supériorité par rapport aux joies du monde, hein. La joie, elle fait partie du fruit de l'esprit. Rappelez-vous, ce qui est marqué dans l'Épître aux Galates, le fruit de l'esprit, elle est bien encadrée, la joie, dans le fruit de l'esprit. Hein. Il est marqué, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Vous voyez, elle est en deuxième, après l'amour et avant la paix. Donc, elle est très bien placée. Hein. Donc, et la ceinture, elle s'était destinée, à l'époque, c'était destinée à soutenir les reins. Ceci était considéré comme le siège de la force, donc, et ça nous est confirmé lorsque l'Écriture nous dit « La joie du Seigneur sera votre force. » Amen. Ou encore « La force et la joie sont dans la demeure de Dieu. » C'est marqué là-bas au fond, en plus, sur ce beau passage qui est là, que nous avons dans notre salle. Et cette joie, je dirais qu'elle jaillit, elle jaillit là comme une source abondante et intarissable de son âme, régénéré de son cœur, vivifié par l'action puissante de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Et le résultat de tout ça, ben c'est le contenu du verset 13. Hein. Contenu de ce verset 13, dans lequel il dit, voilà, « Afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet, éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » C'est vrai. Il chante le Seigneur. Non seulement il chante « au Seigneur », mais il chante le Seigneur, dit-il. Hein ? Chante le Seigneur. C'est lui, c'est le Seigneur qui est le grand sujet, le grand motif de son chant. Et dans sa reconnaissance, dans son adoration, il est totalement absorbé par le grand sujet de son chant, qui est le Seigneur. Il est entièrement concentré sur lui et en lui. Et remarquez bien, c'est son cœur qui chante le Seigneur. Afin que mon cœur te chante. Hein ? Et ça nous renvoie au précieux passage sur le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, dans Éphésiens 5, verset 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que nous chantons au Seigneur quand nous chantons? Est-ce que nous chantons le Seigneur? Et comment est-ce que nous le chantons? Vous savez, on pourrait paraphraser utilement le premier commandement. Vous connaissez le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. On pourrait paraphraser en disant, tu chanteras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et oui, c'est vrai. Et donc, il ne veut pas être muet, hein, il le dit, afin que mon cœur te chante, qu'il ne soit plus muet. Il ne veut pas que son cœur soit muet. Qu'est-ce qu'il en est de votre cœur, frères et sœurs? Hein, c'est ça la grande question. Qu'en est-il de votre relation personnelle avec Dieu? Qu'en est-il de votre communion journalière avec Dieu? Qu'en est-il du dialogue qui doit se poursuivre de manière familière et de manière suivie avec votre Dieu? Est-ce que vous avez cela dans votre cœur? Est-ce que vous confiez toutes choses à votre Seigneur dans votre cœur? Est-ce que vous le remerciez au fur et à mesure de ses nombreuses et excellentes bontés à votre égard? Est-ce que dans votre cœur, vous êtes aussi à son écoute? Est-ce que vous entendez le son de la voix de Dieu? Est-ce que vous êtes attentif aux différents moyens que Dieu utilise pour nous parler? Voyez-vous, c'est cela. Il nous faut prendre garde, vous savez. On peut avoir une voix qui chante, c'est vrai, des cantiques à gorge déployée, mais que le cœur soit muet. Hein. On peut très bien, oui, là aussi, lire, je dirais, ventre à terre, un chapitre après l'autre de la Bible. Oui, on peut le faire, lire de la Bible des quantités de fois, mais que le cœur soit muet, oui. On peut faire aussi, on peut prononcer aussi de très belles, de très longues prières, mais si le cœur est muet devant Dieu, bien ce ne sera qu'illusion, hein. Ce ne sera que perte de temps, quelque part. Et qu'en est-il de notre cœur sur lequel il faut que nous veillions? Et en particulier, veillez à ce que nous ayons une vraie communion avec le Seigneur, cœur à cœur avec lui. Amen, amen. Alors voilà, à la fin du verset, il le dit, il loue l'Éternel son Dieu. Il loue l'Éternel son Dieu. Je reviens sur ce petit mot, son Dieu. Il peut dire maintenant qu'il est son Dieu, et d'une façon plus profonde et plus convaincue qu'il ne le faisait auparavant. Vous savez, pour le croyant, c'est une grande chose, en tout cas pour moi, ça a été une grande chose, une chose inoubliable, lorsque, après avoir longtemps parlé de Dieu, pensé à Dieu comme quelqu'un de lointain, comme quelqu'un d'inconnu, comme quelqu'un, je dirais, voilà, de plus ou moins vague, de plus ou moins personnel, d'un seul coup, j'ai réalisé, d'un seul coup, j'ai découvert que ce grand Dieu s'intéressait à moi, à une petite personne. Jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Alors, ça m'a fichu la trouille déjà dans un premier temps, salutairement, parce qu'il y avait des raisons d'avoir la trouille. Ma vie était loin d'être un exemple. Voilà. Mais j'ai réalisé que ce grand Dieu, eh bien, il voulait s'occuper de moi personnellement. Et il voulait s'occuper de moi avec amour, alléluia, avec le plus grand des amours. Et il voulait le faire pour mon meilleur bien. Et alors là, en tremblant, j'ai pu commencer à dire « mon Dieu ». J'ai pu commencer à dire « mon Dieu » pour la première fois. Hein. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Hein. Dieu ne le veut pas. Il me faut donc faire des expériences avec Dieu. Il me faut donc grandir dans la communion avec Dieu. Il me faut de plus en plus chercher la face du Seigneur et sa communion. Et ainsi, de mieux en mieux, je pourrais dire « mon Dieu ». Comme le psalmiste le fait, il le fait avec de plus en plus d'assurance, de plus en plus de confiance, en grandissant dans la foi et la communion avec lui. Amen. Amen. Et puis, il dit, « Mon Dieu, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. » N'est-il pas digne d'être loué toujours? Hein, il est digne de cela. « Louez l'Éternel, car il est toujours bon. Sa miséricorde durera toujours. » Alléluia, c'est vrai. Et nous devrions le louer continuellement. Pourquoi? Ben déjà à cause de la grandeur de ce qu'il a accompli pour nous, spécialement au travers de l'œuvre de la croix et de sa résurrection. Et nous devrions le louer continuellement parce qu'il est toujours notre avocat auprès du Père pour défendre notre cause et parce qu'il s'occupe de nous continuellement par sa merveilleuse providence. Et nous devrions le louer continuellement, pourquoi ? Parce que c'est continuellement aussi qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter et c'est continuellement qu'il prend garde à ce que ses promesses, les promesses contenues dans sa parole s'accomplissent. Amen. Et nous devrions le louer continuellement parce que même dans les épreuves, dans lesquels nous passons, eh bien, il veille sur nous à chaque instant. Il est, si c'est possible peut-être, encore plus proche de nous dans l'épreuve qu'en dehors de l'épreuve. Hein? Donc, et il veille à ce que cela ne soit pas au-delà de nos forces et qu'avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Hein? De manière à ce que, pour nous, l'épreuve, plus précieuse que l'or périssable, puisse avoir pour résultat l'honneur, la louange et la gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Et nous devrions le louer continuellement parce que nous voyons que les promesses de l'Écriture concernant la fin des temps, eh bien, sont en train de s'accomplir et que même si le monde va de plus en plus mal, même si le monde s'enfonce de plus en plus dans le péché avec ses conséquences, eh bien, il nous est dit pour les croyants, pour vous, redressez-vous et relevez votre tête parce que votre délivrance est proche. Amen. Et ça, et ainsi, si nous relevons notre tête, c'est pour quoi faire ? Mais c'est pour le louer, frères et sœurs. C'est pour cela, hein, donc, l'adorer et espérer en lui. Et cette proclamation de la fin du psaume, je dirais, « Éternel mon Dieu, je te louerai toujours », ce n'est pas simplement l'expression d'un bon désir, ce n'est pas simplement un souhait qu'il fait, ce n'est pas simplement un vœu qu'il fait, hein, c'est plus que ça, c'est une parole de foi en ce qui concerne son avenir, en ce qui concerne son éternité. « Je te louerai toujours, Seigneur, oui, oui, c'est vrai, dans l'éternité, je te louerai toujours, c'est vrai, et combien il sera merveilleux de le louer toujours, d'une louange bien plus exaltée, bien plus éloquente, bien plus consciente de la grande gloire de Dieu que maintenant, hein. Une louange bien plus émerveillée, une louange portée, je dirais, beaucoup plus haut et beaucoup plus fort, parce que réalisant de plus en plus la grandeur et l'excellence de l'amour divin. Alléluia. Bientôt, une louange beaucoup plus légère et beaucoup plus enthousiaste. Pourquoi ? Parce que débarrassée de ce poids de la nature charnelle qui pèse sur nous, débarrassé de ce poids du monde, débarrassé de cette pesanteur diabolique, hein, bientôt une louange d'une extraordinaire puissance. Pourquoi ? Parce que portée par un corps ressuscité, un corps glorifié, une âme vivifiée, un esprit débordant de félicité. Vous savez, les mots humains sont tellement peu de choses pour bien exprimer cela. Mais ça nous parle aussi des raisons en même temps, des raisons pour lesquelles nous pouvons nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux et de ce que nul ainsi ne pourra nous enlever notre joie. Personne ne pourra nous enlever cette joie-là. Oui, éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu, béni sois-tu encore pour ta grande grâce, ta grande fidélité. Béni sois-tu pour les merveilleux trésors qui nous sont exprimés par ta parole, Seigneur. Et merci parce que tu nous aides chacune et chacun d'entre nous à nous en saisir, à les serrer dans notre cœur, Seigneur, oui, comme vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire quelque chose d'ineffable, Seigneur, quelque chose d'une valeur inestimable. Merci notre Seigneur, sois loué, sois béni. Merci pour cet esprit de force, cet esprit de foi, cet esprit de joie, cet esprit de louange, cet esprit vraiment d'adoration que tu fortifies et renouvelles en nous en même temps que de remerciements. Sois glorifié notre Seigneur.